Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Plat au micro, Nicolas la technique. Voilà, en première partie d'émission, je vous ai choisi quelques sujets. On va parler un peu de la... Voilà, du Ballon d'Or 2021. Et puis en deuxième, pardon, il y a d'autres sujets encore. On parlait un peu de Joséphine Baker qui a été panthéonisée aujourd'hui. Voilà, au Panthéon, si je ne me trompe pas. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Anne-Marie Gauthier, qui est la directrice générale de la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal, qui se charge de l'opération Nez Rouge. Voilà, vous dites aux gens, picolez-moi, si vous picolez, appelez-nous, on va vous déposer chez vous à la maison. Vous allez en savoir un peu plus. Voilà, bon, en deuxième partie d'émission, bien sûr, on part maintenant en musique, avec la complicité du chanteur Flavor, Homo Temi.
When you smile, goose pimple for your cheek, cute dimples, your attitude so simple. No, no. Oh yeah, for your face, no wrinkle everly, beautiful, tenderly, so gentle, and almost tell me, yeah, yeah. Almost tell me, yeah. Almost tell me, I'd fall in love with you. Every day I'd fall in love with you so many ways. You'd make me they feel like my best day all the time. When I'm with you, everything is okay, baby. Where you the girl now, where me I one day for life. Anybody will say they no like you, no no better thing. Cause when you smile, goose pimples for your cheek, cute dimples, your attitude so simple. No, no. Oh yeah, for your face, no wrinkle everly, beautiful, tenderly, so gentle. No, no. Omo temi, yeah, yeah. Omo temi, yeah. Ana, ana, omo temi. So many times I feel so cold. So many times I feel so low. So empty. Nobody knows me better than you, baby. Ooh na na na, ooh na na na, ooh na na na. Omo temi, cause when you smile, goose pimples for your cheek. Cute dimples, your attitude so simple. No, oh yeah, for your face, no wrinkle everly, beautiful, tenderly, so gentle. I know, omo temi, yeah, yeah. Omo temi, yeah.
Oui, avant d'aller parler un peu de football, de ballon d'or, tout ça, je vais parler de la, rapidement la démission de Jack Dorsey d'ailleurs, qui a, c'est le patron qui a annoncé son départ hier de la direction générale de Twitter. Voilà, le directeur général, il est cofondateur en plus. Jack Dorsey a annoncé hier qui quittait l'entreprise dès hier même. Il est parti, là. Il dit c'est fini. Voilà. Avec effet immédiat dans, qu'est-ce que vous voulez, directeur général et puis cofondateur. Mais ça ne veut pas dire que le CA est content de son travail. Non, le CA n'est pas content de son travail. Il a d'autres entreprises encore. C'est un milliardaire. Il dit, j'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. Ouais, bon ben, on croit. On croit à ça peut-être, oui, il a fait un communiqué. Hein. Depuis son retour à la tête de la compagnie d'ailleurs à l'Oiseau Bleu en octobre 2015, l'entrepreneur au style décontracté, ouais, son style, j'aime bien. Mais là, en matière de gestion, c'est pas vraiment ça, quoi. Il était régulièrement critiqué pour n'avoir pas lâché les rênes de son autre entreprise. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Donc, le spécialiste des paiements de Mobile Square pour se consacrer uniquement à Twitter, Mobile Square. Il est devenu milliardaire en 2013. Avec l'introduction en bourse de Twitter, Jack Dorsey est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 11,8 milliards de dollars. Voilà, selon le magazine Forbes. Hein. Il avait effectué un premier passage comme directeur général de Twitter en 2007. Entre 2007 et 2008, finalement évincé par le conseil d'administration insatisfait de sa gestion, comme je le mentionnais en début d'année. Oui, oui, le marché a réagi tout de suite. Hein. Alors, on dit que le mauvais gestionnaire s'en va, donc le titre Twitter prend 4,16% dans les premiers échanges à Wall Street. Allez-y comprendre quelque chose, ce que ça veut dire. Voilà, maintenant on va parler de ballon rond, le football. Lionel Messi, pour ceux qui ne savent pas, il n'est plus à Barcelone, au Barça, il est maintenant au Paris Saint-Germain. Voilà, il vient d'avoir son 7e ballon d'or. Oui. 7. Ah oui. Voilà, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon, c'est pas lui qui se vote lui-même, c'est le public, il y a les jurys, les gens qui votent. Mais, il faut le dire, il y a beaucoup de déceptions. C'est un sacre controversé. Les gens se sont dit, non, c'est Lewandowski, le joueur du Bayern de Munich, et qui devait gagner. Bon, ben non, il les a dévancés. C'est pas eux qui votent pour eux. Il y a un jury, il y a le public aussi. Donc, Lewandowski, que les gens appellent Lévy, et puis Giorgino, troisième. Mais cette victoire, quand même, c'est contesté. J'ai vu un peu les discussions sur le web, les avis des gens, les commentaires. Non, c'est pas vraiment ça. À sa place. Peut-être que j'allais dire non, donner ça au deuxième qui est là. Ouais, mais quand même, c'est ça. C'est pas lui qui s'est voté lui-même. C'est les gens, c'est le jury qui l'a voté. Donc, pour la 7e fois de sa carrière, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or France Football. Une victoire qui le place bien seul au palmarès du prestigieux trophée avec désormais 2 Ballons d'Or d'avance Cristiano Ronaldo. Il n'est pas du tout content, Cristiano Ronaldo. Je vous dis pourquoi. Il y a en colère, la grosse colère de Ronaldo contre France Football qui organise cet événement. Il a posté un message hier d'ailleurs, incendié contre Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football qui organise le Ballon d'Or. Le dénouement d'aujourd'hui explique les propos de Pascal Ferré la semaine dernière lorsqu'il déclarait que je lui avais confié que ma seule ambition était de finir ma carrière avec plus de ballons d'or que Lionel Messi. Oh ouais, c'est Ronaldo qui dit ça. Il a remporté 5 fois le trophée, bien sûr, comme je l'ai dit. Il dit, Pascal Ferré a menti. Il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Ouais, il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi dans un message, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le ballon d'or. Et il a encore menti aujourd'hui, justifiant mon absence au gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister. Voilà, ça c'est Cristiano Ronaldo, hein, CR7. La plus grande ambition de ma carrière, de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour mon équipe nationale. C'est Ronaldo qui l'a dit. Hein. La plus grande ambition de ma carrière est d'être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. Ouais. Alors, c'est pas un analphabète. Hein. Bon, oh là, non, il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens qui jouent au football. Tu sais. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Oui, c'est normal, il n'a même pas été sur la liste des gens qui devaient être... voilà, qu'on devait voter pour eux, pour qui on devait voter, tout ça. Et puis le président, le rédacteur en chef, raconte des histoires sur lui. C'est normal qu'il réponde, non ? Alors, je ne ferai pas autre chose que de répondre. Alors, Messi... que d'autres appellent maintenant Messept, Messix, il était après Messix quand il a eu son sixième ballon d'or, on l'a nommé Messix, M-E-S-S-I-X, S-I-X, et puis maintenant c'est Messept, M-E-S-S-E-P-T, voilà, Messept, avec sept ballons d'or, voilà, bon ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est... D'ailleurs, il y a eu tellement de fuites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savaient avant la date d'hier. Ouais, y a eu trop de fuites. Les gens ne sont pas capables d'être discrets, de fermer un peu leurs ordinateurs pour balancer les messages, parce qu'ils ont des proches qui sont dans le comité là-bas, qui leur ont balancé les choses autour d'un verre ou bien d'un café ou bien d'un repas, un peu arrosé. Voilà. Ah bon, quand c'est comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors les gens balancent après quelques verres d'alcool, quoi. Ouais. Et puis bon, pour la septième fois, c'est lui qui est là. Cette victoire a provoqué la colère de nombreux spécialistes, comme je le dis. La presse allemande a dit Lothar Matthäus encore, hein, et ils disent mais c'est pas vrai. Mais malgré ça, Messi est resté sportif, très fair-play. Il a rendu hommage aux joueurs de Bayern de Munich, Lewandowski. Je veux dire à Robert, il s'appelle Robert Lewandowski, que c'est un honneur de me battre à tes côtés. Oui, tu méritais. Ton ballon d'or l'année dernière, tout le monde était d'accord, j'espère qu'on va te le donner et que tu l'auras chez toi, parce que tu le mérites, a lancé la pulga durant la cérémonie. Voilà, et puis Karim Benzema qui a été considéré comme l'un des favoris, termine en 4e place. Kylian Mbappé prend la 9e place de ce 65e ballon d'or. Oui, ça fait quand même 65 ans qu'ils font cet événement, hein, 65 ans. Ouais, plus âgé que moi. Dans le reste de la soirée, pour les femmes, c'est la joueuse du FC Barcelone, Alexia Petoulas, qui a remporté le ballon d'or féminin. Alors on dit bravo. Voilà, Pedri a gagné le trophée Copa, Guiliani, le trophée Yachin Robert, celui du meilleur buteur. Et Chelsea a été élu club de l'année. Alors, on dit merci à tous ceux-là, bravo à tous ces gagnants et aux autres, travaillez fort pour l'année prochaine. On va en musique avec un autre artiste, voilà, qui va nous mettre de la mélodie dans les oreilles. C'est un duo. Non, c'est un jeune homme avec son père. Hein. Il se fait accompagner par son père. Jeremy Morgan, accompagné de son père, Gramps Morgan, Try Your Love.
No house, no car, no vanity. If you know that a pure love, come and read about it. Feel your vibes, it's heaven, it's holy. Hey, there's a spot for everyone if you open up your heart. It's all yeah. About Jah, Jah, Jah love. The world needs Jah, Jah, Jah love.
Oui, Jeremy Morgan avec la complicité de son père Grant Morgan à Treasure Love. Voilà, je vais parler de la grande Josephine Baker, icône de la liberté qui fait son entrée au Panthéon. Ça s'est passé aujourd'hui. Ça avait été annoncé déjà il y a quelques mois, bon ben, mais la cérémonie a eu lieu aujourd'hui. 46 ans après sa mort, Josephine Baker est entrée aujourd'hui au Panthéon pour rejoindre les grandes figures françaises grâce à sa riche vie d'artiste, de music hall, de résistance et de militante antiraciste. Voilà, pour ceux qui ne savent pas qui est Josephine Baker, c'est la grande, c'est une afro-américaine qui a quitté les États-Unis pour aller s'installer en France. Voilà, à cause du, voilà, de la ségrégation raciale, bien sûr. Voilà. Voilà, et puis, je pense bien que il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas, les partis d'opposition en France ne sont pas opposés à ça. Ils n'ont pas commencé à taper sur Macron quand Macron, le président français Macron, Emmanuel Macron l'a annoncé. Non, non, non. Donc ça s'est passé aujourd'hui. Et puis, c'est une femme noire, artiste saine, née aux États-Unis. Elle ne sera que la sixième femme sur 80. Personne déjà, personnage illustre à y entrer. Après Simone Veil en 2018, ça va être mémorable avec de la joie et de l'excitation, comme disait son fils Brian Bouillon. Baker, l'un des 12 enfants adoptés par Josephine Baker, dont 11 sont toujours vivants. Oui, oui, sa famille, on appelait, comment dirais-je, la famille arc-en-ciel, des enfants de toute origine, quoi, qui est adoptée par cette dame-là. Ouais. Et puis, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été attendues là, qui étaient présentes d'ailleurs à cette cérémonie, donc le chef de l'État rendu en hommage, oui, artiste de renommée mondiale, engagé dans la résistance, inlassable militante antiraciste, qui fut de tous les combats qui rassemblent les citoyens de bonne volonté en France comme par le monde. Elle est l'incarnation de l'esprit français, a proclamé le chef de l'État, en annonçant d'ailleurs le 23 août dernier son entrée au Panthéon. Donc la cérémonie a eu lieu aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui étaient en France, ou bien qui ont eu le temps de se mettre devant la télé, ou bien sur le web pour voir ça. Et qu'est-ce qu'il a dit encore Brian Bouillon Baker ? Ma mère était une idéaliste qui voulait prouver que la fraternité universelle n'était pas une utopie. Voilà. Ça, c'est son fils qui vit encore, qui dit ça. D'ailleurs, il y a un documentaire, un web documentaire sur elle, Panthéon Josephine Baker, une femme libre aux mille visages. Oui. Voilà. On va écouter un peu plus tard vers la fin de mes petits commentaires sur cette journée spéciale pour elle, pour son corps. Bien sûr, elle est déjà partie. Que la paix et la terre lui soient légères. J'ai deux amours, Paris et mon pays, c'est la chanson la plus connue d'ailleurs qui a été jouée par la musique de l'armée de l'air à l'arrivée du cercueil au Panthéon. Voilà. Et puis, mais attention, c'est pas le corps qui se déplace, c'est nos fats. La dépouille de Josephine Baker ne sera pas dans le cercueil. Le cercueil que vous avez vu là, voilà là, non, le corps n'était pas là-dedans puisque sa famille a décidé de la laisser reposer dans le cimetière marin de Monaco aux côtés de son dernier mari et l'un de ses enfants, non loin de la princesse Grace, qu'il avait, Grace ou bien Grace, comme vous voulez, qu'il avait soutenu dans les dernières années de sa vie. Voilà, c'est donc un cénotaphe, tombeau ne contenant pas le corps, c'est comme ça qu'on appelle cénotaphe. Oui, c'est le tombeau qui ne contient pas le corps, qui sera installé dans le caveau 13 de la crypte où se trouve déjà l'écrivain Maurice Genevoix, entré au Panthéon l'an dernier. Il faut décrire un peu. C'est symbolique, hein, ce cénotaphe a été rempli de poignées des cathares qui étaient chères à Josephine Bacon, sa ville natale de Saint-Louis aux États-Unis. Elle est originaire de Saint-Louis aux États-Unis. Et puis Paris, où elle a connu la gloire. Le château des Milandes en Dordogne, où elle a installé sa famille arc-en-ciel que beaucoup de gens appelaient sa tribu. Ouais. Et Monaco, où elle a terminé sa vie, bien sûr. Et il y a des gens qui pensent que c'est une récupération électorale pour Emmanuel Macron. Il y a d'autres qui disent n'allez pas là à cette direction, ça ne vaut pas la peine de parler de ça. On est tous d'accord, cette femme mérite ça. C'est pas la peine de revenir sur ce genre de situation qui ne correspondent pas du tout à ce que vous pensez. C'est pas politisé. Alors moi personnellement, je connais un peu sa musique. Ouais, ça jouait. Je ne connais pas tout d'elle, mais les morceaux, les chansons que je connaissais d'elle, c'est en matière de musique collée ou tout ça, je me suis dit, quand j'ai appris sa mort il y a très longtemps quand même, hein, après 46 ans après sa mort, tout petit, Je me suis dit, je me demande bien, j'avais demandé si elle revenait. Non, non, elle est morte, elle ne revient pas. Elle est partie dans l'au-delà, ça c'est comme ça quoi. C'est quand on a un enfant et puis on voit ce genre de choses comme ça qui se passent et puis on pose la question. Les parents se disent, mais pourquoi ils posent cette question un peu bébête? Mais non, c'est la réaction des enfants. Voilà, je pense bien que ces enfants vont être en paix comme ça. Et puis bon, reconnaissant aussi la reconnaissance de l'État français vis-à-vis de cette grande dame qui a été une grande artiste, oui. Et puis militante aussi, ça c'est ce côté militantisme d'elle qui a frappé beaucoup de gens. Et puis ensuite le côté musical, le côté artistique bien sûr. Mais elle était connue aussi aux États-Unis, ça il faut le dire. C'est pas parce qu'elle s'est installée définitivement en France qu'elle n'était pas connue, mais si elle était restée, elle est venue parce qu'il y avait la ségrégation raciale qui planait là-bas, qui ne lui plaisait pas. En France, elle a trouvé, ça n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de racisme en France, mais il n'y avait pas de ségrégation au sens américain, quoi. Les noirs là, les toilettes là, les noirs, on n'avait pas le droit, seulement les blancs, seulement les noirs. C'est ce qui fait qu'à l'époque, il y a beaucoup d'afro-américains. À l'époque, on les appelait même pas afro-américains, c'était les noirs américains. Et beaucoup sont partis de là, d'autres même qui sont allés s'installer carrément en Russie. Voilà, dans un pays très froid comme ça, oui, carrément, en Russie. D'autres sont même retournés définitivement dans certains pays africains, comme le Ghana, des pays anglophones, où ils n'ont pas à reprendre la langue. Parce que dans ces pays, le Nigeria, le Ghana et autres, ou bien le Libéria, ou bien la Sierra Leone, c'est des pays anglophones. Donc c'était beaucoup plus facile de retourner là, sur le vieux continent, d'où sont partis le arrière-grand-grand-grand-grand-parents. Voilà, pour ne plus subir la ségrégation raciale qui voilà, faisait rage aux États-Unis dans ces années-là. Voilà, on va écouter sa chanson. Josephine Baker, que la terre lui soit légère, paix à son âme. Josephine Baker, j'ai deux amours.
Ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Mon pays est Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris. Tout entier, le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris.
Josephine Baker, J'ai deux amours. Voilà, ça a été sa journée de panthéonisation. Elle est rentrée au Panthéon. Voilà, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Attention, ne rêvez pas là. Il n'y a même pas de demande à faire. Voilà, c'est comme une nomination, voilà, du gouvernement français. C'est pas n'importe qui va là-bas non plus. Hein. Voilà, en deuxième partie d'émission, après la petite pause publicitaire, nous allons recevoir Anne-Marie Gauthier, qui est la directrice générale de la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal, qui gère l'opération Nez Rouge depuis plus d'une vingtaine d'années. On va me demander, mais quel est le rapport entre l'opération Nez Rouge et le Cégep, la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal? Elle va nous l'expliquer, elle est mieux placée pour ça, c'est pourquoi je l'ai invitée d'ailleurs. Alors restez à l'écoute et on vous revient tout de suite après la petite pause publicitaire avec notre invité.
Pascal 17-18 avec Fulgence Blas.
Robert, Tender, Patrice, oui, c'est écrit comme Patrice, mais c'est pas un homme, c'est une femme. Patrice Robert, Tender, de Trinidad Tobago, notre invité déjà au bout du fil, voilà, pour nous parler des Nez Rouges, la 38e campagne, la 38e édition. Moi, d'ailleurs, elle va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est la fondation du Cégep du Vieux-Montréal qui s'occupe de ça depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors là, elle va nous expliquer ça. Je dis son nom, Anne-Marie Gauthier, qui est la directrice générale de la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Je vais bien. Je suis très heureux de vous avoir et puis de faire la découverte de votre fondation que je ne connaissais pas.
Donc, oui, ben.
Grâce au nez rouge, à l'apprenti.
Voilà.
Grâce au nez rouge, à la campagne, à la 38e campagne. Bon, ben, je me suis dit, elle va nous expliquer qu'est-ce que la fondation du Cégep du Vieux-Montréal a à voir avec les campagnes de nez rouge de plus d'une vingtaine d'années.
Oui, ben, écoutez, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas compliqué. L'opération nez rouge, il y a plusieurs organisations nez rouge à travers le Québec, le Canada.
Oui.
Pour chaque territoire circonscrit, ben, il y a des maîtres d'œuvre qui sont en charge d'organiser la campagne de financement ou le service de raccompagnement sur leur territoire.
Oui.
Et dans le fond, ça devient aussi une campagne de financement pour les organismes qui prennent en charge l'organisation du service de raccompagnement.
Oui.
Alors ici, sur l'île de Montréal, ben, c'est la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal qui a cette responsabilité-là de mettre en place le service, d'aller recruter les bénévoles puis de l'offrir à la communauté. Alors, c'est ça le lien. Puis souvent, les organismes qui prennent en charge de mettre en place le service, eh bien, c'est des organismes qui sont voués à la jeunesse ou au sport amateur.
Ah, donc je vous dis bravo, vous et votre équipe, hein, parce que ça a commencé déjà depuis le 26, hein, c'est juste jusqu'au 31 décembre.
Oui, voilà. Donc, on a repris le service après une année d'absence
à cause
de la pandémie. C'était une première depuis que le service est né. Mmh. Donc, on est revenu un peu dans l'inconnu parce que c'est pas la même situation.
Oui.
On savait pas trop comment ça allait se passer. Mais
et surtout, on est toujours en pandémie. Moi, je l'appelle le maudit virus, permettez-moi ce terme.
Il y a beaucoup de mauvaises conséquences, le virus.
Oui.
Il y a beaucoup,
comment vous vous organisez avec ça?
Écoutez, c'est sûr qu'il y a des consignes sanitaires qui ont été mises en place cette année à travers toutes les organisations. Nous, à Montréal, le passeport vaccinal est exigé pour tous les bénévoles qui travaillent en centrale ou qui vont faire du bénévolat sur la route. Alors ça, c'est la première chose.
Oui.
Les bénévoles doivent porter le masque. Les clients aussi, c'est obligatoire.
Oui.
Par la suite, on met en place, on leur donne des produits pour faire du nettoyage, pour nettoyer les surfaces. Mmh. À la fin du raccompagnement, on donne un petit rappel aux gens de nettoyer leur véhicule le lendemain matin et le volant. Donc, c'est sûr que les restrictions, les consignes sont moins lourdes qu'au début de l'année. Donc, tu sais, ça diminue un peu la tâche à ce niveau-là, mais il y a quand même des consignes que les bénévoles et les clients doivent respecter.
Mmh. Est-ce que le recrutement des bénévoles continue ou bien vous avez mis fin déjà? Vous avez tout ce que vous voulez?
Ah, on recrute jusqu'au 31 décembre. Vous savez, on prend des bénévoles tout le mois. Alors, ça continue.
Okay.
Ça dépend des organisations, mais vous voyez, à Montréal, on ne donne pas nos disponibilités d'avance. Alors, quelqu'un peut décider de faire du bénévolat l'après-midi et de venir le soir.
Oui.
Il s'inscrit en ligne, il se présente ensuite en centrale, puis il peut donner quelques heures de sa soirée, passer toute une nuit sur la route, travailler en centrale. Donc, on a besoin de bénévoles.
Jusqu'à la fin de la campagne.
Jusqu'à la fin,
oui.
Effectivement.
Oui, oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, là, qui aimeraient bien donner de leur temps libre, jusqu'à la fin du mois de décembre, n'hésitez pas de contacter la fondation du Cégep du Vieux-Montréal ou bien directement la campagne Opération Nez Rouge. Comment ça se passe?
Dans le fond, le plus simple, c'est d'aller sur le site Internet, donc opérationnezrouges.com.
Oui.
Il y a un onglet qui dit « Devenir bénévole ».
Oui.
Après ça, on peut choisir la centrale qui nous intéresse, la région qui nous intéresse. On remplit un formulaire d'inscription.
Oui.
Puis on envoie tout ça, puis ça se fait comme ça. Ça prend, je vous dirais, même pas 5 minutes s'inscrire comme bénévole.
Voilà, parce que c'est pas seulement à Montréal que ça se passe.
Non.
Les accompagnements, ça se passe sur toute l'étendue de la province.
Oui.
Du Québec,
cette année, il y a 23 régions qui participent. Comparativement, je dirais à 61 en 2019, parce qu'avec la pandémie, puis toutes les restrictions, il y a des maîtres d'œuvre qui ont une année aussi plus difficile. Donc, cette année, il y a 23 régions qui participent pour le service de raccompagnement. Alors, mais ça aussi, c'est indiqué sur le site Internet.
Sur le site aussi, oui. J'ai vu la liste même de ces régions qui sont concernées. Je vais revenir sur ça, Outaouais, Sorel-Tracy, Baie-Comeau, Magog. La liste est là-bas sur le site, d'ailleurs. Saint-Jérôme, Saguenay, Chibougamau, Chapais, Ville-de-Roc. La liste est là-bas. Pour ceux, comme vous l'avez entendu, Anne-Marie Gauthier, la directrice générale de la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal, le dit, allez-y, si vous avez encore du temps jusqu'à la fin du mois, n'hésitez pas pour porter main à cette équipe. Moi, je lui ai dit bravo, chapeau, parce que là, vraiment, c'est pas tout le monde. Eux aussi, ils ont envie de faire la fête. Ils vont dire, ah, moi, je vais passer toute la soirée, je ne pourrais même pas toucher un verre.
C'est sûr. Mais tu sais, c'est un peu l'action de redonner au suivant. Dans le fond, on peut aller fêter un soir, puis le lendemain, on peut se dire, oh, je vais redonner un peu de temps, puis je vais contribuer aussi à redonner à ma communauté. Donc, ça peut être une roue qui tourne. Souvent, je dis, si tous les gens qui utilisaient Nez Rouge venaient faire une nuit de bénévolat, on n'aurait pas de problème de recrutement. Oui. Tout irait bien.
Oui, ouais, voilà. On va dire, profiter de l'occasion pour lancer, faire un clin d'œil à votre principal partenaire des jardins, parce que là, c'est le pilier essentiel même pour l'opération Nez Rouge.
Oui. Mais dans le fond, Desjardins, c'est un partenaire provincial de l'organisation. Donc, ils soutiennent différentes initiatives comme l'application mobile de Nez Rouge que les gens peuvent télécharger sur leur téléphone.
Oui.
Donc, ça leur permet de faire une demande, de voir le numéro de leur centrale. Après ça, puis nous, même à l'interne, vous savez, maintenant, tout se passe par application mobile, envoyer les demandes de transport aux équipes sur la route.
Wow.
Donc, on a gagné beaucoup en efficacité. On n'est plus avec la télécommunication, les vieux systèmes où des fois, on devait attendre sur la ligne du walkie-talkie pour parler à notre répartiteur.
C'est fini tout ça.
Donc maintenant, on est vraiment 2.0. On travaille avec l'application.
Wow.
C'est vrai qu'on a gagné en rapidité. T'sais, dans le fond, un transport est fini. Oups, on envoie tout de suite l'autre à l'équipe. Donc, on les garde occupés
toute
la nuit.
Oui. Bon, ben, je me dis, de toutes les façons, je me suis dit, les gens, il y a pas mal de gens qui sont actuellement, c'est une période de vacances aussi, il y a des gens qui se disent, de toute façon, je serai en vacances, je vais me permettre au moins d'une journée, ou bien une demi-journée, ou bien une soirée pour aider les gens qui sont en famille ou bien avec des collègues de travail pour qu'ils puissent rentrer tranquillement chez eux à la maison. Voilà.
Oui. Voilà. Puis moi, c'est une façon aussi de s'impliquer, mais Nez Rouge, ça. C'est différent. On ne sait pas ce qui nous attend lors d'une soirée de raccompagnement. Plein de choses peuvent arriver. On fait des rencontres drôles et les gens sont, vous savez, sont un peu sur le party, mais pas tant que ça. Donc, c'est intéressant de jaser avec eux. Ils sont drôles, ils ont envie de fêter. Donc, on a toutes sortes toutes sortes d'anecdotes qui peuvent être racontées le lendemain suite à une soirée de raccompagnement. Fait que ça fait vivre une soirée différente entre amis, entre collègues, avec nos membres de la famille. Donc, c'est différent.
Est-ce que c'est ce seul projet? Bon, quel est le rôle principal de la Fondation du Cégep du vieux Montréal?
Oui, bien la Fondation, on est là vraiment pour soutenir le collège, offrir une formation toujours de plus haute qualité aux étudiants qui fréquentent le collège. Donc, on est là en soutien pour le Cégep, que ça soit par offrir des bourses aux étudiants. On est là aussi au niveau du soutien à la formation, l'achat de matériel didactique, tout ce qui est achat d'équipement. On a aussi des fonds d'aide, des étudiants qui sont en situation financière précaire. Aussi, on finance le programme de football, donc les étudiants athlètes du collège. Puis en ce moment, on est en campagne majeure, donc il y a des projets structurants du collège que la Fondation va soutenir dans le cadre de sa campagne majeure. Alors, on a beaucoup de travail. On n'a pas chômé malgré la pandémie. Les besoins étaient encore là, même plus. Pour nos étudiants, on en a beaucoup parlé, beaucoup les étudiants du Cégep, on le sait. Donc, c'est important pour nous de demeurer présents puis de travailler fort, continuer de les soutenir.
Anne-Marie, s'il y a des Samaritains qui nous écoutent, qui disent « Mais comment je peux faire un petit geste à ma manière? S'il veut faire un don, comment s'y prendre? » À la Fondation, je veux dire.
À la Fondation, on a un site web, c'est le fcvm.ca. Donc, c'est une plateforme. Il y a une possibilité de faire un don en ligne si on le souhaite.
Oui.
Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut faire un don pour quelque chose de particulier, pour une bourse, c'est possible de l'indiquer aussi. Sinon, toutes les informations, si on désire nous appeler, avoir plus d'informations, toutes les informations sont sur notre site Internet. Donc, c'est... Tout est là.
FCVM.ca. Ouais, voilà. SPVM. Ouais, voilà. On va faire une petite pause musicale et puis on vous revient.
Parfait.
Merci.
Après, juste après la toute fin, dans le moment où s'ouvre l'immense, le bout de fil que je tiens dans ma main, c'est là que ton histoire commence. Les souvenirs, ces oiseaux qu'on a nourris de détails, mille petits riens semés au vent d'avant, sont des images qui aujourd'hui s'éveillent, qui viennent dérouler un peu de ton temps. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Ce vide, cette chaise qui est restée que je côtoie, une chaise libre, silencieuse, immobile, elle est si vide qu'elle est pleine de toi. Et tous les jours, dans les détours, je rencontre ton absence, elle porte encore tes habits, tes contours. Elle va et promène ton ombre en silence. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Il y a la vie qui suit la vie, la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. On dirait que tu apparais.
Fred Bellerin, la vie qui suit la vie. Voilà, notre invité est toujours avec nous, Anne-Marie Gauthier, la directrice générale de la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal. Il ne faut pas oublier la présence aussi, la collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Voilà.
Oui.
Qui collabore, parlez-nous un peu de ça. Comment cette collaboration, ça marche bien, je crois bien.
Ben oui, ça marche bien. En fait, vous savez, on a un peu les mêmes visées à Opération Nez Rouge puis la Société de l'assurance automobile du Québec. Le but, c'est de rendre les routes le plus sécuritaires possible. Alors, de par notre mission, nos valeurs, c'est sûr qu'il y avait ce recoupement qui se faisait. Ils sont là depuis les tout débuts de l'Opération Nez Rouge. Alors, on contribue, l'Opération Nez Rouge, à augmenter les bonnes données sur le bilan routier. Et ça, c'est certain. Hein? Donc, nos bénévoles qui viennent donner leur temps, ben, c'est à ça qu'ils contribuent. Donc, c'est un geste important, je trouve, quand ils viennent faire du bénévolat. C'est
oui.
Une portée aussi importante.
Mm-hmm.
Oui.
Et puis, dans mes recherches, je suis allé sur des choses là-bas qui m'ont beaucoup intéressé, les conférences en entreprise, des choses comme ça. Et j'ai dit, donc c'est pas seulement en fin d'année que Opération Nez Rouge est en fonction, quoi, si on veut voir, en gros.
Non, c'est en fait, les programmes en entreprise, ça a lieu toute l'année.
Oui.
Donc, quelqu'un, puis je vous en parle, tu sais, c'est pas moi qui mène le programme parce que je suis à Montréal, mais il y a une personne dédiée au secrétariat, donc, qui organise ces tournées-là en entreprise. Donc, les entreprises peuvent faire une demande au secrétariat provincial de Nez Rouge.
Oui.
Et puis, ils peuvent recevoir, je crois que c'est Julie qui va aller dans les entreprises faire une conférence pour des fois reparler de la sensibiliser les gens à ne pas boire, ne pas conduire, ou des fois comment on peut parler à nos adolescents de ne pas conduire, de les sensibiliser.
Dans les écoles aussi.
Oui, dans les écoles, ça c'est la tournée Partez sans déraper, ça a lieu actuellement. Donc les maîtres d'œuvre comme nous, on participe à la tournée.
Oui.
Donc on se promène dans certaines écoles de la région de Montréal, puis on va rencontrer les jeunes, puis On leur fait faire des exercices un peu ludiques avec des lunettes qui représentent un peu l'état où on se trouve, qu'on est en facultés affaiblies.
Fait que ça leur montre vraiment. Vous distribuez aux gens pour savoir comment on se sent quand on est.
On leur dit marcher sur une ligne, là, ils se rendent compte avec les lunettes, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est un peu l'effet que ça a quand ils prennent un verre. Donc après ça, quand on prend le volant, ben on se dit wow, hein, j'ai pas tous mes moyens. Fait que ça permet d'avoir un impact concret auprès des jeunes. Puis voilà, fait que ça s'adresse beaucoup aux étudiants de secondaire 5, je vous dirais.
Oui.
Donc, les parties, le bal va peut-être reprendre éventuellement, mais nos jeunes sortent. Alors, c'est une façon de les sensibiliser à être responsables dès leur jeune âge.
Oui. Bravo. Merci à vous et à votre équipe. Vraiment, c'est. Depuis combien de temps vous êtes à la tête de la Fondation?
Moi, je suis à la Fondation. À la tête, ça fait quelques années, mais ça fait 20 ans que je suis à la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal. Je suis entrée ici, puis j'ai commencé à travailler pour le projet de l'opération Nez Rouge. J'ai coordonné Nez Rouge pendant 16 ans. Alors, je connais bien.
c'est votre maison, c'est votre grenier.
c'est une grande partie de ma vie. J'y suis très attachée.
Ah ouais.
Vous avez raison. Ouais.
C'est votre maison. Vous connaissez tous les petits recoins.
je connais beaucoup de choses. Mais je vous dirais qu'il y a des nouvelles choses qui arrivaient à chaque année. Donc, ça me permettait d'avoir des nouveaux défis. Mais c'est vrai que c'est tout un travail d'organiser l'opération Nez Rouge. Alors, on apprend beaucoup.
Oui. Anne-Marie, oui. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de dire, bon, j'en peux plus, là, ça suffit, là, cette histoire du Nez Rouge, là, je n'en peux plus, je vais passer à autre chose?
j'ai changé de fonction au sein de l'organisation. Alors, c'est sûr que maintenant, je regarde ça un petit peu plus de loin, mais je continue d'être impliquée parce que pour moi, c'est important. J'ai connu des gens aussi à travers l'opération Nez Rouge. Des bénévoles qui sont là depuis que j'ai commencé. Fait que j'ai des gens là qui sont impliqués depuis 16 ans. Il y en a même qui étaient impliqués avant moi.
Oui.
Donc, c'est un peu une histoire de famille, je vous dirais. Donc, je continue de venir certains soirs les voir. Mais
le plaisir est toujours là.
Oui, mais pour la Fondation, je vous dirais que c'est essentiel, l'opération Nez Rouge, parce que au niveau d'une campagne de financement, puis je vous parle des années plus normales, là, parce qu'avant la pandémie, ça génère des revenus autour de 100 000 $ pour la Fondation avec les dons des utilisateurs, les partenaires qu'on va chercher.
Oui.
Alors, quand je mentionnais que c'était une campagne de financement, c'est une des campagnes les plus importantes aussi pour la Fondation.
Oui.
Donc, tant qu'on pourra l'organiser, on va le faire.
Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, il nous reste une minute. Un dernier mot là pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient, qui nous écoutent, qui vont dire, j'aimerais bien savoir, au fait, est-ce que moi, quand on me dépose ma voiture, là, ce que je veux pas donner ma voiture à n'importe qui, comment vous pouvez les rassurer?
Écoutez, comme je le disais, il y a beaucoup de consignes qui sont mises en place cette année au niveau de la COVID. Donc, toutes les consignes, c'est en lien avec les consignes de l'Institut national de la santé publique. Alors, en ça, on est tout en règle. Nos bénévoles, ils font par bonté de cœur, donc ils sont toujours heureux de les raccompagner.
Oui.
Puis, tu sais, j'ai pas d'inquiétude. Nos bénévoles, ils sont là, ils sont contents de le faire. Les clients ont toujours du plaisir avec nos bénévoles.
Toutes les précautions sont prises.
Oui, toutes les précautions sont prises. Puis, je crois que les clients qui appellent Nez Rouge ou les utilisateurs sont bien conscients de ça aussi. Donc, on fait très attention. La sécurité des bénévoles, des clients, ça a toujours été au cœur de nos préoccupations, puis ça l'est encore tout autant, même plus, je vous dirais, cette année.
Merci beaucoup, Anne-Marie Gauthier, directrice générale de la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal. Et vous et à votre équipe, pour chaque année, depuis plus de 20 ans, mais c'est pas vrai.
Dit comme ça, puis le répéter, là, c'est vrai que je trouve que ça fait longtemps.
Ouais. Allez, bonne 38e édition, bon 38e raccompagnement, et au plaisir de vous réentendre pour d'autres projets aussi, avec la Fondation.
Oui. Je vous remercie beaucoup.
Allez, joyeuse fête à vous.
Vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ouais. Thank you.
haven't seen any rain. Dragging around a ball and chain. I haven't seen any rain. Dragging around a ball and chain. Quarter past 11, I'll catch the next elevator to heaven. Time can be a second, can be a minute, an hour, or even a day. Time, 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 time can be a second, minute, hour, or even a day.
Chris Bell, Elevator to Heaven, c'est du blues pur ça. Merci à toi Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci à notre invité Anne-Marie Gauthier, qui est la directrice générale de la Fondation du CGF du Vieux-Montréal. Voilà, c'est dans le cadre de la 38e édition de l'opération Nez Rouge. Merci à nos auditeurs auditrices, fidèles auditeurs auditrices, voilà, et qui sont là avec nous depuis le début de l'émission. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M, dans le même studio avec le même animateur, Fulgence Plat. Et je vous dis ciao.